Vous écoutez RTL.
RTL, il est 18h. RTL Soir, Bernard Poirette.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce RTL Soir du vendredi 23 février. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'information. Tout de suite, la première édition du journal avec Céline Landreau. Céline, bonsoir.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Accueil assez musclé pour Bruno Le Maire chez PSA à Mulhouse.
Le ministre de l'économie vivement pris à partie par des syndicalistes. Il réclame une meilleure redistribution alors que le groupe automobile affiche un excédent de 6 milliards d'euros. Des quartiers étanches dans les prisons, un contrôle plus strict des écoles hors contrat. Le gouvernement dévoile une série de mesures pour lutter contre la radicalisation. Y aura-t-il une trêve en Syrie ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit actuellement à New York. France et Allemagne font pression sur la Russie. Des vaches en plein Paris défilaient cet après-midi au cœur de la capitale pour les stars du Salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes demain.
Le Salon, justement, nous en parlerons notamment à 18h20 avec notre premier invité, Jérémy Deserle. C'est le président des jeunes agriculteurs. Est-ce qu'il va accueillir demain, sans aucune animosité, Emmanuel Macron, tôt le matin au salon ?
Pas de quatrième titre pour Martin Fourcade à Pyeongchang. Le relais homme du biathlon termine cinquième. La Bourse de Paris clôture en légère progression, plus 0,15% à 5317 points. Et puis les courses à Enghien, il fallait jouer le 7, le 15, le 13, le 5 et le 12.
À la fin du journal, la question de l'actualité. Le gouvernement s'en défend, mais a pourtant bel et bien recours très souvent aux études du SIG, le service d'information du gouvernement. Est-ce que ce sont des sondages de popularité ou est-ce tout autre chose ? La réponse dans ce journal. Juste avant 18h30, les coulisses des enjeux de France-Italie de rugby. C'est à 21h ce soir à Marseille. Dans la deuxième demi-heure, Olivier Mazerolle et la fin des ZAD, les zones à défendre. Démantèlement de celles de Bure avant d'autres sans doute pour éviter un autre Dame-des-Landes bis repetita. Ensuite, notre deuxième invitée, culture, celle-là, la comédienne Afsia Hirsi, César pour son premier rôle au cinéma en 2007. 10 ans plus tard, elle porte magnifiquement le premier rôle d'un autre film qui s'appelle L'amour des hommes, qui sort mercredi prochain. 18h50, RTL Monde, bien sûr, et dès 19h15, je vais refaire le monde avec les polémistes. Et puis, dans l'actualité, il y a aussi, et son rôle n'est pas négligeable ce soir, Patricia Charbonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Demain, du soleil encore au nord, des nuages au sud et le très grand froid qui approche.
Oui, un froid vif demain encore et ce n'est que le début. À partir de dimanche, c'est confirmé, le froid va s'intensifier sur l'ensemble du pays. Alors les conditions météo seront très agréables sur la moitié nord. C'est un ciel parfaitement dégagé et c'est un temps très ensoleillé, mais donc très froid avec en plus le vent de nord-est qui va accentuer demain encore cette sensation de froid. Sur la moitié sud, c'est plus nuageux et même encore très instable pour demain dans le sud-est, avec des averses entre la Côte d'Azur et la Corse et encore de fortes chutes de neige attendues dans les Alpes du Sud, près de la frontière italienne, avec toujours un risque d'avalanche très marqué de la Haute-Tarentaise au Mercantour, avec des températures comprises entre moins 4 et 7 degrés demain matin et 3 à 14 dans l'après-midi.
Merci Patricia.
Quel temps sur les routes maintenant avec vous, Florian Delisle, bonsoir.
Bonsoir.
Fin des vacances pour les uns, début pour les autres et ça coince surtout en direction des Alpes.
Pour ceux qui roulent sur l'autoroute A6, vous avez du mal à quitter la région parisienne, ça c'est assez habituel pour un vendredi soir. Mais avant Beaune, plusieurs ralentissements vous attendent à Auxerre et à Nitry. Comptez un peu plus d'une heure sur votre temps de parcours habituel. Si vous rentrez d'Albertville ou du massif de la Vanoise, l'autoroute A43 est saturée dans le secteur de Chambéry, près d'une heure et demie de bouchon en direction de Lyon. Et vous êtes également ralenti un petit peu dans l'autre sens, trafic très chargé depuis Lyon. Il y a également les accès à certaines stations comme Megève, les Contamines Montjoie qui sont difficiles ce soir.
Et sauf malchance, normalement au bout de la route, il y a le plus souvent de purs moments de bonne.
La neige est tombée en abondance et maintenant c'est le soleil qui prend le dessus. Direction tout de suite la Mongie dans les Hautes-Pyrénées où les vacanciers au milieu desquels vous avez skié cet après-midi vivent un rêve éveillé, Denis Grandjou.
Oui, pas facile d'enregistrer son texte sur une piste bleue, mais enfin, je vais quand même essayer. Il faut dire que les conditions sont optimales, de la neige fraîche, du ciel bleu. Alors on comprend pourquoi les vacanciers qui viennent juste d'arriver sont ravis.
Génial le temps, ça fait du bien.
C'est merveilleux.
J'ai fait faire le téléski et le prendre tout seul.
Alors bien sûr, pour un premier jour, il faut retrouver ses marques, retrouver les automatismes.
Les skis parallèles, prends ton temps. Remets ton ski parallèle. Voilà.
Je vais trop vite et j'arrive pas à ralentir.
Donc des gamelles.
Ouais, plein.
Et puis on n'est pas obligé, absolument pas d'ailleurs, de faire du ski. On peut aussi juste profiter du site.
Les lunettes de soleil, le chapeau, tout va bien.
Voilà. Il est grand temps pour moi de prendre un petit peu de vitesse et puis allez, bon ski.
magnifique, magnifique.
Le reportage de Denis Grandjour, assurez-vous, il est bien arrivé en bas d'épices.
Pas Denis Grandjour, hein, à la manger. Merci beaucoup.
RTL Soir.
Il ne s'attendait sûrement pas à un accueil aussi houleux, dirons-nous. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été chahuté cet après-midi par des syndicalistes de PSA.
Le ministre de l'économie était à Mulhouse pour visiter l'atelier de montage de la nouvelle DS7 Crossback en compagnie du PDG Carlos Tavares. Le groupe PSA se porte bien, très bien même, puisqu'il annonce un excédent de 6 milliards d'euros. Mais les représentants syndicaux de l'usine étaient loin de partager l'enthousiasme des autorités très remontées. L'un d'entre eux, de la CGT, a d'ailleurs vivement pris à partie le ministre.
Vous êtes ici dans une entreprise qui marche.
Écoutez, monsieur, on était 14 000 dans cette usine. On est 7 000. Alors ici, sabre des emplois. Dans la fonction publique, vous allez sabrer des emplois. Chez les cheminots, vous allez sabrer des emplois. Quand est-ce que vous allez arrêter? Ils sont riches à milliards. Ils sont obèses de fric. Vous voulez quoi? Qu'ils fassent encore plus de pognon?
Nous avons créé des emplois.
Quel emploi vous avez créé? Il y a une reprise? Elle est où, la reprise? Où est-ce qu'elle est, cette reprise? Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine? Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine?
Vous êtes pour
les licenciements? Vous êtes venu faire encore des cadeaux au patron?
Pour garantir aux Français qu'on va garder une industrie automobile.
Vous savez combien on a eu d'augmentation cette année? On a eu 19 euros.
Mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est pour les salariés, ça? 19 euros d'augmentation alors qu'il y a des milliards
de
bénéfices.
Et vous vous rendez compte que cette boîte, il y a 5 ans, a été menacée de fermer?
C'est un peu facile tout ça, c'est ce que vous dites.
Échange un petit peu costaud donc entre Bruno Le Maire, le ministre, et un délégué CGT recueilli pour RTL par Yannick Holland. Lutter contre la radicalisation dans les salles de classe comme dans les prisons, le gouvernement a présenté aujourd'hui une série de mesures.
1500 places seront créées dans les prisons françaises, des quartiers étanches, exclusivement réservés aux détenus radicalisés et aux djihadistes. Mais le Premier ministre Édouard Philippe a appelé à la mobilisation de tous les secteurs, services publics, sport, santé et bien sûr l'école, avec notamment un contrôle plus strict des établissements hors contrat, Thomas Proto.
Oui, au nom de l'inquiétude provoquée par la récente multiplication des ouvertures, 150 en 2017 contre une trentaine seulement il y a 5 ans. Le gouvernement, sans le dire explicitement, vise en particulier certains établissements confessionnels musulmans soupçonnés d'enseignement tendancieux, notamment en histoire. Parmi les mesures envisagées, une inspection annuelle obligatoire ou l'allongement du délai pendant lequel le maire ou le recteur peuvent s'opposer à l'ouverture. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, au micro de Franck Hanson.
Tout simplement d'avoir des critères objectifs pour éviter les dérives de façon à protéger la jeunesse. Donc le sujet ne concerne pas que le fondamentalisme religieux, il peut concerner toute dérive qui conduirait à quelque chose de contraire à l'ordre public, puisque le concept clé dans cette proposition de loi, c'est que désormais l'ordre public peut être invoqué. Et donc bien entendu, cela peut toucher toute dérive sectaire, mais tout ça sera fait avec discernement.
La liberté scolaire reste en effet un principe constitutionnel. Certains responsables de pédagogies alternatives comme Montessori, par exemple, mettent en garde contre un contrôle accru tous azimuts, alors que l'ensemble du hors-contrat ne représente que 70 000 élèves en France sur un total de 12 millions. C'est par le biais d'une proposition de loi en cours d'examen au Parlement que se fera la réforme.
Explication de Thomas Proto pour RTL. Sauf coup de théâtre, c'est à 20h30 heure de Paris que le Conseil de sécurité des Nations Unies devra commencer à voter sur un éventuel cessez-le-feu en Syrie.
Une trêve de 30 jours qui pourrait permettre l'arrivée d'aide humanitaire dans la Ghouta orientale, enclave rebelle syrienne à l'est de Damas, pilonnée par le régime de Bachar al-Assad. Les bombardements ont fait près de 500 morts en 5 jours. L'Union européenne réclame une trêve. Tous les regards sont désormais tournés vers la Russie. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont même écrit à Vladimir Poutine aujourd'hui pour tenter d'infléchir sa position, Brice Dugénie.
Absolument, alors que d'intenses négociations se tiennent en ce moment à New York entre les délégations des membres du Conseil de sécurité. Angela Merkel et Emmanuel Macron unissent donc leurs plumes. Ils demandent directement à Vladimir Poutine de ne pas mettre son veto à cette résolution de l'ONU, comme cela avait été le cas à plusieurs reprises pour prendre la défense de son allié Bachar al-Assad. L'objectif de cette résolution, c'est donc d'obtenir une trêve de 30 jours au cours de laquelle des évacuations sanitaires pourraient être organisées pour les 400 000 civils qui restent prisonniers de cette zone de la Ghouta orientale. En fait, d'un côté il y a les Russes, de l'autre il y a les Américains, les Européens et les Turcs, et ils ne s'entendent pas sur les conditions de ce cessez-le-feu. Les Russes refusent que les combattants islamistes bénéficient de la trêve, là où les Européens et les Américains demandent un accord global et immédiat face à l'urgence humanitaire. C'est une sorte de scénario similaire à ce qui avait été mis en place à Alep en décembre 2016. Une trêve avait permis l'évacuation des civils, mais ce matin encore, on en est loin. Des bombardements massifs ont eu lieu sur la Ghouta orientale. Un peu moins d'une semaine après le début de cette offensive, ils ont déjà fait près de 500 morts.
Explication de Brice Dugénie pour RTL. Les États-Unis prévoient de transférer leur ambassade de Tel Aviv Aviv à Jérusalem en mai prochain pour le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Donald Trump avait annoncé en décembre dernier que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale de l'État hébreu.
La suite du journal de Céline Landreau dans un instant. On va s'intéresser à quelques vaches et brebis qui ont déambulé dans les quartiers cossus de la capitale en milieu d'après-midi.
18h11, RTL Soir avec Bernard Poirette et le journal de Céline Landreau.
Veillée d'armes, porte de Versailles, puisque demain, le salon de l'agriculture ouvre ses portes très tôt, ma foi.
Emmanuel Macron y a entendu, lui, encore plus tôt, avant même l'ouverture dès 7h du matin, Bernard. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, lui, n'a pas prévu de s'y rendre pour l'instant. En tout cas, les animaux, eux, sont déjà là. 4000 bêtes au total dans le sillon de Haute, la vache de race Aubrac et Géry de cette édition 2018. Mais avant de se faire admirer au salon, certains de ces animaux ont défilé cet après-midi dans les rues de Paris, Jacques Serret.
Oui, une dizaine de vaches de race de montagne, une vingtaine de brebis, béliers et agneaux sous le soleil et au pied de l'hôtel des Invalides pour le plus grand bonheur des petits Parisiens. Comme Gabriel, 4 ans, et Alix, 9 ans.
J'ai vu des vaches et des biquettes. Je crois que j'avais jamais vu un mouton.
Et pas de taureau non plus d'ailleurs.
Non, j'en avais jamais vu.
Un aperçu du salon au cœur de la capitale et déjà les premiers échanges entre curieux et éleveurs.
Elle a 5 ans et elle s'appelle
Idéal.
Idéal. C'est bien comme son nom l'indique. Elle a des yeux magnifiques.
On ira vous voir au salon.
Opération séduction pour les agriculteurs auprès de leurs potentiels futurs visiteurs alors qu'une dizaine de manifestants pro-vegan ont légèrement perturbé le rendez-vous.
Mais pas de la nourriture,
c'est de la violence.
Jean-Luc Chauvel est éleveur au vin en Haute-Loire.
On est dans une société aujourd'hui où les gens se posent beaucoup de questions. Les agriculteurs aussi s'en posent. Donc on est exactement sur les mêmes angoisses, les mêmes peurs, mais les mêmes espoirs. On doit discuter avec les consommateurs. On n'est pas en opposition, on est en discussion.
Discuter, expliquer leur métier et leurs pratiques, c'est ce que comptent faire les 2000 éleveurs qui seront présents durant ces 9 jours de salon.
Absolument, Jacques Serret. Et avec Virginie Garin, vous nous ferez vivre en direct au mieux possible ces 9 jours du salon de l'agriculture. Le salon et l'accueil que M. Macron peut s'attendre à y recevoir demain matin. Nous en parlons à nouveau dans 7 minutes exactement avec notre premier invité, Jérémy Deserle, qui est le président des jeunes agriculteurs. Et puis, c'est confirmé, le tableau retrouvé la semaine dernière dans la soute d'un autobus est bien un Edgar Degas.
Les experts du musée d'Orsay ont authentifié la toile. Les choristes, aussi appelés les figurants, qui représentent un groupe de chanteurs, avaient été volés en 2009 au musée Cantini de Marseille. Elle a donc été retrouvée la semaine dernière, Olivier Bois, dans la soute d'un bus garé sur une aire de Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne.
Oui, après un contrôle tout à fait banal, contrôle donc d'un car de transport commercial, il y avait quelques dizaines de passagers qui partaient vers un pays de l'Europe de l'Est. Les douaniers fouillent partout, ils sont habitués dans ce genre de cas à tomber sur de la drogue ou des cigarettes, mais là ils découvrent cette toile enroulée dans le bagage et ils voient la signature Degas. Impossible pour eux en temps réel d'authentifier l'œuvre, mais ils comprennent que c'est étrange, d'autant que bizarrement parmi les passagers, face à eux, personne ne se lève pour revendiquer la propriété de la valise. L'œuvre a été saisie, elle est donc maintenant authentifiée. Il s'agit des choristes d'Edgar Degas, réalisée en 1877. Une toile qui représente une scène de l'opéra Don Juan. Le tableau avait disparu, vous l'avez dit, depuis 2009. Alors que faisait cette toile dans le car? C'est un mystère. Soit un complice était dans le bus et est parti sans se faire connaître, soit plus probablement quelqu'un a mis la valise et la toile au départ pour un complice qui attendait à l'arrivée à destination. L'enquête va maintenant essayer de le déterminer.
Le récit d'Olivier Bois pour RTL.
Et cette fois, le miracle Fourcade n'a pas opéré à Pyeongchang. Le relais homme du biathlon français termine seulement cinquième.
Déception, oui, pour les Bleus et leur chef de file Martin Fourcade. Le porte-drapeau tricolore repartira tout de même de Corée du Sud avec 3 médailles d'or. Un record qu'il entend savourer, même s'il espérait une autre fin pour cette quinzaine olympique.
Ce soir, ça passe pas, c'est dommage. On aimerait bien être à leur place, mais on n'a pas du tout fait ce qu'il fallait pour l'être. Donc voilà, pas de regrets. Il faudra être meilleur à l'avenir. C'était une super exposition pour notre sport. Pour l'instant, mon futur, c'est les 3 prochaines semaines de Coupe du Monde. Faut jamais dire jamais, mais 4 ans, ça paraît très loin. Et j'ai eu 3 magnifiques médailles sur ces Jeux Olympiques, 3 magnifiques médailles d'or. Et voilà, pour l'instant, j'ai envie de savourer ça. J'ai envie de terminer cette fin de saison avec beaucoup d'envie et en bagarrant, en jetant toutes mes forces dans la bataille. Puis ensuite, on verra pour la suite en temps voulu. J'aimerais bien vous dire oui, mais pour l'instant, c'est plutôt une tendance négative.
Martin Fourcade, chez nos confrères de France Télévisions.
Gare à l'humiliation ce soir pour le 15 de France. Les rugbymen affrontent l'Italie dans le tournoi des Six Nations et espèrent effacer leur dernière contre-performance. C'est la troisième mi-temps peu glorieuse à Édimbourg. Coup d'envoi ce soir donc à 21h à Marseille. Match à suivre en fil rouge sur RTL dans Soir de Ligue 1. Puisqu'il y a du foot aussi au programme, Strasbourg affronte Montpellier. Coup d'envoi cette fois à 20h45. Le football, c'est aussi le tirage au sort de la Ligue Europa. L'OM affrontera de l'Athletic Bilbao et Lyon, le CSKA Moscou. Les huitièmes de finale auront lieu les 8 et 15 mars prochains.
Merci beaucoup. Vous revenez à 18h30 pour le rappel des titres.
À 18h30.
Sans faute. À tout à l'heure.